Europe 1, en balade avec Jean-Michel Ribes, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est en compagnie de Jean-Michel Ribes que nous partons en balade aujourd'hui, directeur du Théâtre du Rond-Point, auteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur de cinéma. On lui doit également deux programmes de télévision devenus cultes, Merci Bernard et Palace. Jean-Michel Ribes nous attend à la Coupole, un haut lieu du Montparnasse des années folles où plane encore le souvenir de Joséphine Baker, de Picasso, de Cocteau et de Giacometti.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jean-Michel Ribes. Frédéric Taddeï.
Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour Monsieur Taddeï.
Je cherchais un homme avec un chapeau, mais vous n'êtes pas le seul aujourd'hui, il y en a d'autres.
Très peu, hein, ouais. Quand même, très
c'est
peu.
C'est assez rare. Hein. Vous savez pourquoi les chapeaux ont disparu?
Pourquoi les chapeaux ont disparu? Parce que quoi, à cause du vent?
Mais je ne sais pas. Regardez n'importe quelle photo d'avant la Seconde Guerre mondiale, tous les hommes ont des chapeaux. Ouais. Ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un chapeau ont une casquette. Ouais. Les très riches ont un haut de forme. Ouais. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, peu à peu, tous les chapeaux disparaissent et avec eux les chapeliers, les casquettes, tout disparaît.
Moi, j'ai fait de la résistance, c'est vrai. Je fais de la résistance, je suis pour le chapeau. Je suis contre tous ces bonnets. On a l'impression d'être entouré de schtroumpfs dès qu'il fait froid. Vous avez remarqué? Tout le monde a des petits bonnets comme ça. Et je trouve que ça, c'est ridicule, d'autant plus qu'on ne sait plus si c'est un homme ou une femme sous le bonnet.
Sans doute. Et c'est important pour vous de savoir distinguer au premier coup d'œil un homme d'une femme?
Oui, c'est important parce que comme ça, on ne peut pas dire que je suis sexiste. Vous voyez? Donc je dis « Ah, bonjour monsieur !» Et si on me dit « Comment, monsieur, une femme ?» Non. Je ne me suis pas trompé.
Alors moi, sur la disparition des chapeaux, j'ai ma petite théorie, je pense que c'est dû aux voitures.
Ah oui?
Et d'ailleurs, aux États-Unis, les chapeaux mettent plus de temps à disparaître parce que les voitures sont plus hautes.
Ah oui, c'est possible.
Je pense que c'est pour ça.
Quoique, il faut reconnaître que les chapeaux auraient dû disparaître chez les cow-boys parce que ça se coud beaucoup sur un cheval et le chapeau aurait pu tomber. Mais non, il est resté accroché.
De même, les moustaches ont disparu après la Première Guerre mondiale. Vous en avez toujours une.
Oui.
Mais il y a une barbe en dessous.
C'est ce qui permet de tenir la moustache. Ça, c'est vrai.
Là aussi, résistance.
Non, c'est-à-dire que là, je vais vous dire la vérité, c'est parce que j'en avais marre de me raser.
C'est pour ça?
Oui, enfin, au début, c'est pour ça. Oui. Et puis, comme ça, à 22 ans, j'ai laissé pousser ma moustache, puis je me suis dit, tiens, ça fait ça de moins à faire.
La Coupole, c'était le haut lieu du Montparnasse des années folles. Vous n'étiez pas là, évidemment. Hein. Vous n'avez pas,
vous n'avez pas
connu Aragon.
Ici, moi, j'ai beaucoup de souvenirs. Moi, c'était plutôt dans les années 70. Après ma pièce Les Fraises musclées, après tout, on était là avec Coppi, avec Savary, avec Aramel. Et c'était insensé. On venait là, comme chez nous. Quoi. C'était la salle à manger. On venait après ici. Je me souviens même un jour avoir couru dans les allées comme ça, avoir bousculé une table et avoir renversé tout un bol de café, y compris le lait, et y compris les tartines et y compris la confiture, sur un monsieur un peu grognon qui était Ionesco. Il n'a rien dit parce qu'il a trouvé ça très absurde, donc ça allait dans son sens. Donc on s'est excusé, puis voilà, c'est terminé.
Est-ce que Eugène Ionesco, qui était déjà un très grand auteur de théâtre, connaissait les gens du mouvement Panique, les Arabal, les Coppi, les Topor?
Je ne sais pas, les Savary, et puis le petit jeune qui était moi là-dedans.
Voilà.
Ouais. Non,
le
non,
cadet,
mais,
le cadet.
Oui, le petit cadet qui suivait comme ça, en pédalant derrière. Mais non, je ne sais pas. Mais nous, on s'est amusé beaucoup, et beaucoup de choses qu'on a écrites après n'étaient que le miroir de fou rire qu'on avait ici, parce que c'était insensé. Tous mes comédiens allaient aux toilettes, là-bas. Quand je dis là-bas, c'est, on ne voit pas, mais c'est quand même là-bas. Maintenant, vous voyez que je précise avec ma main. Et on se déshabillait, on se foutait à balai, on gardait nos costumes de scène et on repassait avec les costumes de scène au milieu des gens en prenant des piles d'assiettes et en les laissant tomber par terre. C'était, et on dit et les gens, les maîtres d'hôtel qui nous connaissaient, disaient arrêtez de faire les cons, etc. Je dis, mais si on arrête, vous n'aurez plus personne.
Et je sais s'il y a toujours du monde à la Coupole. Oui. En dépit du fait que ça a été créé en 1927, il y a le dancing de la Coupole qui est en dessous, qui date de la même époque. Hein. Je crois qu'il est né un an après la brasserie. Mais je me souviens, moi, quand j'étais jeune, on disait qu'il y avait des gigolos qui venaient faire danser les vieilles dames.
Oui,
vous avez connu ça?
Ah oui, on allait voir, oui. C'était assez touchant parce qu'il y avait des dames âgées, à Rombières, etc., et qui tout d'un coup avaient une espèce d'émergence printanière et renaissante de leur libido dans les bras d'un jeune type qui leur caressait les seins en dansant, et c'était un moment merveilleux pour elles. Oui, c'était un
petit paradis. Vous n'avez jamais essayé? Vous aviez l'âge.
Non, parce que malheureusement, j'étais employé souvent par des femmes plus jeunes que celle-là. La cougar m'échappait.
Oui, et puis c'était moins la mode qu'aujourd'hui, sans oui, aucun doute, hein, effectivement. Vrai. Vous avez bien connu Giacometti qui était ici.
J'ai connu Giacometti, j'ai connu surtout Diego, son frère, qui faisait les mêmes sublimes. Giacometti, bien sûr, que j'ai connu, mais alors ici...
Il venait chez vous même quand vous étiez enfant, Giacometti. Oui. Et Miro, vous m'aviez dit un jour que Miro venait chez vous.
J'ai un très beau dessin de Miro, mais on avait chez moi, c'était une petite... c'était des gens d'ici qui venaient. Mon beau-père, Jean Cortot, qui était un peintre admirable, qui a disparu...
Jean Cortot, pas Cocteau.
Non, Cortot, qui a disparu il y a 2 mois, malheureusement, était un homme qui adorait, qui avait une capacité à réunir des gens merveilleux autour de lui, qui l'adorait. Alors, il y avait Queneau, il y avait Tardieu, il y avait... je connais Giacometti. Miro, d'ailleurs, m'a fait un jour, en bas, un dessin merveilleux que j'ai toujours, évidemment.
Bon, on va pas s'ennuyer avec Jean-Michel Ribes. On se retrouve dans un instant. Toujours à la coupole.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Michel Ribes sur Europe 1.
On retrouve Frédéric Taddeï et l'acteur Jean-Michel Ribes dans une célèbre brasserie Art Déco du 14e arrondissement de Paris.
Jean-Michel Ribes boit un café à la coupole. Toujours pas d'alcool, Jean-Michel ?
Je suis allergique à l'alcool. Alors, les gens ne me croyaient pas ici, il y a eu des scènes insensées. Je me souviens d'une scène ici où j'ai dit « je bois pas », les gens ont dit « arrête », etc. C'est pas vrai, parce que j'ai quand même des amis qui aimaient l'alcool. Je parle de Villeray, je parle de Corsan, je parle de Topor.
Et il y avait Roland... Jean Carmé.
Et Jean Carmé, bien sûr. Mais Roland Topor était là et disait « arrêtez », il m'appelait le sobre capitaine. Il disait « arrêtez, foutez-lui la paix ». Et finalement... J'ai dit, vous ne croyez pas que ça me rend malade, vous ne croyez pas qu'un verre de vin rouge, ça me fout dans un coma éthylique. Eh bien, on va le faire. J'ai bu un verre de vin rouge, je me suis à moitié tombé dans les pommes, et ils m'ont ramené chez moi, assis sur une chaise pailletée de la coupole à l'époque, que j'ai toujours. Pour vous prouver qu'il y a eu ici la preuve que je ne mentais pas sur l'alcool.
On est dans un décor très art déco, j'ai l'impression qu'ils ont refait le décor d'origine.
C'est-à-dire que ce qu'il y a surtout, c'est qu'en haut des colonnes, il y a des toiles incroyables. Il y a des toiles de Zadkine, il y a des toiles de très grands peintres qui venaient à l'époque pour dîner et manger ici, peigner les colonnes.
Les 27 premières colonnes ont été faites par les peintres de l'époque, des années 20. Et puis plus récemment, il y a eu Ricardo Mosner, je crois. Ils en ont refait dans les années 80.
Ah oui, ça je savais pas, mais c'est magique.
Est-ce que vous avez été influencé par le mouvement Dada, vous, les dadaïstes?
J'ai pas été influencé, j'ai l'impression qu'à un moment, c'était les seuls avec qui je pouvais parler. C'est-à-dire que...
Ils étaient déjà morts, non?
Oui, non, mais ils étaient morts et pas morts, parce qu'ils ont quand même créé tout un mouvement qui a heureusement fait naître des gens avec qui on se sentait plutôt pas mal. Non, moi, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Par-delà les marronniers » sur 3 dadaïstes qui sont malheureusement suicidés, Cravant, Vacher et Rigaud. Et c'est vrai que je trouve que les dadaïstes, ça a été la seule grande révolution de la civilisation mondiale même. C'est-à-dire que tout d'un coup, en 1915, ils se disent... Toute la civilisation, tout ce qu'on nous a appris, la morale, le bien, le mal, la religion, pour faire 11 millions de morts. Donc on arrête tout, c'est de la connerie, on détruit tout. Ils envoient chier tout. C'est magnifique. Ils apportent quelque chose de totalement qui surgit et qui nous a permis d'arriver à mettre dans les œuvres l'inconscient, d'arriver à ce que Beckett écrive En attendant Godot, à ce que Zadkine... Enfin, je veux dire, tout d'un coup, ça a été un renouvellement magnifique de l'art, ça a redonné une pulsion du chant, etc. Et je trouve que c'est très... Parce que si l'art ne dérange pas, même si l'art ne détruit pas la réalité qui nous étouffe, et qui... alors ça sert à rien. Et eux, ils ont fait une espèce de bombe atomique avec de l'art.
Mais des gens comme Roland Topor, comme...
on est tous des
Arabal, Savary, Copy...
Il n'aurait pas existé sans l'analyse. C'est-à-dire qu'on est tous des petits bâtards, des petits enfants, des arrière-petits-enfants de ce mouvement-là. Ce qui fait qu'on a été très mal vus pendant longtemps. Moi, je me souviens, puisque pas très loin d'ici, rue du Château, quand on était tous en train de faire des choses dans un théâtre qui s'appelle Théâtre de Plaisance.
Ah oui, qui était rue du Château,
il n'y avait personne. Hein. C'est-à-dire, c'était un vieux garage.
Une salle pourrie.
Oui, avec un type génial qui s'appelait Aslanian, qui était un membre du Parti communiste et qui nous a acheté des bagnoles, acheté des appartements. Voilà. Très, très amusant. Et alors, on était là. Et justement, on était à l'époque, c'était Brecht où on n'existait pas. Les artistes de théâtre qui ne jouaient pas à Brecht étaient considérés comme des rebelles, puants, etc. Et moi, je me souviens que Savary me dit un jour, tu sais, le problème, c'est qu'il y a trop de télé, les gens regardent la télé, etc. Donc, on avait fait des spectacles, et lui en particulier. Alors, il avait demandé à Rita Cadillac, à des stripteaseuses qui attiraient...
Rita Cadillac, star du Crazy Horse.
Oui, de venir jouer des pièces de copie ou de moi, donc complètement folle. Et alors, il avait trouvé cette chose assez intelligente pour que les gens viennent, c'est qu'il avait mis tout le long de la scène des postes de télévision tournés vers les spectateurs qui restaient allumés. Comme ça, il me disait, tu vois, il loupe pas le film, et en même temps, il regarde la pièce, ça va les faire venir.
Et ça marchait.
Oui, ça a commencé à marcher à ce moment-là.
Vous avez eu une carrière assez diversifiée, théâtre, bien entendu, cinéma, en tant que réalisateur, à la télévision, avec deux immenses succès. Merci Bernard et Palace.
Palace, d'ailleurs, dont je fais une adaptation, je vous dis, en scoop scénique, et qu'on va faire probablement au Théâtre de Paris à la rentrée.
À la rentrée, il y aura Palace au théâtre.
Palace sur scène.
Mais sans Philippe Corsan, malheureusement, qui était le directeur et votre ami, le directeur du Palace.
Sans Philippe Corsan, mais il serait content parce que Palace a été une pépinière d'émergence et de nouvelles personnes inconnues. Une petite figurante qui s'appelait Valérie Mercier qu'on avait pris, quelqu'un qui n'avait jamais joué, qui s'appelait François Morel, etc. Et là, j'ai fait une distribution justement de gens que les gens ne connaissent pas, mais vont avoir la joie de connaître.
Et ça vous amuse encore, Palace,
aujourd'hui ? Oui, parce que là, on a fait l'adaptation depuis un an avec Jean-Marie Gouriot, on a beaucoup ri.
Mais à l'époque, les auteurs étaient formidables. Ben, c'était Topor, il y avait Volinsky, non, dans l'histoire.
Oui, Volinsky, enfin, 80%, je dis ça avec un peu d'immodestie, avait été écrit par Topor et par moi. Et après, il y a eu, oui, il y a eu Rolin qui a fait le professeur Rolin, il y a eu Volinsky, il y a eu surtout GB, et il y a eu Gouriot. C'est là où les premières brèves de comptoir, où j'ai eu l'idée de lui dire, mais il faut les faire jouer, il faut remettre...
Ben, c'était Jean Carmé à l'époque qui disait les brèves de comptoir.
Ouais. Justement, alors lui ne supportait pas que je ne bois pas. Alors, il m'amenait chez lui, à Sèvres, il mettait 20 verres de blanc sur son bar, il disait, maintenant, tu vas essayer, tu vas t'amuser, et je t'en supplie, tu ne vas pas me dire que tu n'aimes pas ça.
Jean-Michel Ribes, on va partir en balade, on part de la coupole, et puis on va aller, pas tout à fait à l'aventure quand même.
Oui. Mais moi, vous savez, ça me fait plaisir d'être ici, parce que c'était un endroit, c'est pas de la nostalgie, mais ça a été un endroit où on a tellement ri, on a tellement fait chose, que ça m'a habité encore pendant très longtemps, ça m'habite toujours.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Michel Ribes sur Europe 1. Pour la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï, Jean-Michel Ribes revient sur ses débuts pour Europe 1.
Nous voilà sur le boulevard Montparnasse avec Jean-Michel Ribes. Et vous m'aviez raconté une fois que la première fois que vous êtes monté sur scène, ça vous a valu plusieurs années de pension. Votre père l'a très très mal pris. Vous envoyez dans une pension très dure, hein, celle que décrit Patrick Modiano dans De si braves garçons.
C'est l'école du Moncel. J'avais 12 ans, j'avais joué à la Cité universitaire. Une pièce qui s'appelait Plouf, le petit fantôme, qui était d'une auteure qui était Maria Machado, qui est l'équivalent pour l'Amérique du Sud du Petit Prince. C'est un fantôme, un petit fantôme qui se demande si les gens existent. Sa famille lui dit non et qui finit par en trouver. Et moi, après, évidemment, mes parents étaient séparés. Mon père a trouvé ça épouvantable, que ça allait m'amener direct à l'échafaud, procès, tout ça. Et je me suis retrouvé donc dans cette pension du Moncel, qui était une pension qui essayait d'imiter les collèges anglais, durs, machin, châtiment corporel, etc. C'était une horreur et simplement j'ai rencontré là celui qui allait devenir mon meilleur ami. On ne s'est pas quitté depuis qu'on a l'âge de 13 ans, qui est Gérard Garouste et avec qui je me baladais beaucoup sur ce boulevard Montparnasse.
Gérard Garouste, grand peintre figuratif, grand peintre religieux, il y en a encore aujourd'hui, en ce début de 21e siècle. Pourquoi sur ce boulevard ? Pourquoi sur le boulevard Montparnasse ?
Sur ce boulevard, pour multiples raisons. D'abord parce qu'on allait tout le temps à la coupole, sortant du théâtre où il me faisait mes décors, parce qu'il a commencé comme ça avant d'être peintre, il faisait des décors.
Et il s'est fait connaître d'ailleurs en faisant en peignant les murs du Palace, la grande boîte de nuit de la fin des années 70.
Absolument. Et il faisait mes décors, il a fait des décors au théâtre de la ville. Et sa femme habitait boulevard Montparnasse un peu plus loin, donc on était souvent dans ce quartier et on a fait quelques frasques. On allait en particulier dans un grand magasin pas loin d'ici. On n'avait pas un rond pour monter des spectacles. On prenait des blouses de livreurs. On montait au 5e étage. On attrapait des rouleaux de tissu de 2 mètres. On se les mettait dans l'épaule et on descendait avec nos blouses. Personne ne nous demandait rien et on se taillait.
Parce que le quartier était très différent à l'époque de ce qu'on a
aujourd'hui sous les yeux ?
Oui et non. Oui, parce que...
Il n'y avait pas de valise à roulettes.
Oui. Déjà, la population a un peu changé, mais moins que Saint-Germain-des-Prés, qui est devenu une fashion week permanente. Alors que là, non, il reste quand même la coupole
célèbre. Il reste des cinémas, il reste des bars.
Ouais, le théâtre de Poche-Montparnasse qui était là. Il y avait... Voilà, ça reste encore quand même avec un petit parfum où ni Hemingway, ni je sais pas qui aurait refusé d'y venir.
Est-ce que vous êtes beaucoup amusé au cours de votre vie, Jean-Michel Ribes, ou vous avez l'impression que finalement, les moments de déprime ou de tristesse l'ont emporté ?
Disons que ça a été un équilibre, ça a alterné. C'est-à-dire, c'est vrai que cette propension au rire de résistance, au rire comme ça, un peu libertaire, c'était souvent pour guérir, cicatriser des douleurs ou des malheurs, c'est sûr.
Quand vous parlez de rire de résistance, forcément, on se dit qu'il doit y avoir un rire de collaboration.
Il y en a un.
C'est qui aujourd'hui pour
je ne donnerai personne, mais quand vous écoutez, par exemple, ça
faites
fait partie
attention,
des ricaneurs.
Il y a des voitures qui passent.
Oui, c'est les ricaneurs, et puis quand vous savez, c'est ces rires qui ne disent. Enfin, c'est. Cet amusement de digestion qui ne dit rien. Oh, le fer à repasser est tombé, la bonne l'a échappé, tombé sur la queue du chat. Ah, ah, ah. J'ai fait du ski, le moniteur n'avait qu'une jambe. Enfin, tout ça qui ne dit rien, qui ne dérange rien, qui est comme ça du fast-food du rire, quoi.
Oui, mais aujourd'hui, alors dès que le rire dérange un peu, c'est un concert de protestation. Les gens s'indignent, les gens sont devenus très susceptibles.
Non, ils ne sont pas devenus susceptibles, ils sont devenus un peu... autocenseur, il y a une espèce de loi de la morale, de l'ordre moral qui retombe comme ça avec toutes les règles. Il ne faut plus regarder une fille dans la rue, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela. Donc on n'ose plus tellement bouger. Moi d'ailleurs, je ne sais pas si c'est bon pour vous de vous promener boulevard Montparnasse avec moi parce que vous allez, on va dire, vous avez très mauvaise fréquentation par exemple.
On l'a souvent dit à mon sujet, donc oui. C'est pas grave.
Donc on en remet une couche.
Il y a encore des baraques à gaufres hein, sur le boulevard Montparnasse.
Oui, il y en a toujours eu à crêpes même. Très bonnes crêpes. Je conseille les crêpes du boulevard Montparnasse. En particulier la crêperie qui est à côté du théâtre de Poche. Ouais. Le petite baraque, là, elle est très bonne.
Vous êtes né à Paris, vous ?
Ah oui, moi, je suis né à Paris et je suis ADN Paris. Je suis... j'arrive pas... J'ai, comme on dit, beaucoup voyagé dans beaucoup de villes du monde et partout. Et je n'arrive pas à trouver l'équivalent de Paris.
Là, on va vers les studios de Boulogne. Vous avez tourné autrefois Palace. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, mais je vois aussi une trottinette électrique. Vous avez essayé les trottinettes électriques qu'on laisse maintenant sur tous les trottoirs à Paris. C'est comment ? C'est rapide
hein ? Oui, c'est rapide. Et d'un autre côté, je me dis que la Rolls avec un chauffeur, c'est pas mal non plus.
Oui. Vous qui avez toujours un chapeau, la trottinette, c'est pas pratique.
C'est vrai. Et en même temps, je mets au défi les chapeliers de faire des chapeaux pour qu'on puisse les porter avec la trottinette.
Bon, écoutez, là, on va prendre une voiture. C'est plus simple. Vous pourrez garder votre chapeau. Pendant qu'on va monter dans cette voiture, écoutons Juliette Gréco nous chanter Paris Canaille. Ça vous va bien, chanson de Léo Ferré.
Paris Marlou, aux yeux de filles, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes. Accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. T'es gigolo, t'es déshabillé sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, des verres d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames seront une raison à ce qu'on vigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Aldep savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copains, sinon t'es bon. Allez la une, allez la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Allez la der, allez la rien, t'es un gangster à la mi-pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. T'es vagabonde. que font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance, à illusion, oh, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées, pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flonflon, t'as la manfaine et des millions. Pour être poète, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, mais c'est si bon.
C'était Paris Canaille, interprété par Juliette Gréco, une chanson écrite par Léo Ferré. On se retrouve dans un instant.
Jusqu'à midi et demi, vous partez en balade avec Frédéric Taddeï et Jean-Michel Ribes dans les rues de Paris.
Nous roulons en direction des studios de Boulogne avec Jean-Michel Ribes. Vous faites partie de ces hommes, Jean-Michel, qui préfèrent la civilisation à la nature. Ça vous vient d'où, ça ?
Bah, c'est-à-dire que je préfère surtout l'art à la nature et la culture à la nature. C'est-à-dire que je trouve que... Est-ce que finalement les arbres étaient beaux avant Corot les ait peints? Non.
Bah si, quand même.
Non, personne ne les regardait, on s'en foutait. C'était pour passer avec des guerriers, aller foutre la panée aux barbares.
Il y avait quelques paysans, quand même.
Oui, mais les paysans, ils s'occupaient.
Il y avait des poètes, il y avait François Villon.
Mais François Villon, il s'occupait des pendus, il ne s'occupait pas des arbres. Non. Je trouve d'ailleurs que les écologistes ont toujours une très bonne nature. Et je trouve que quand j'entends des 50 émissions sur la disparition du petit insecte bleu d'Indonésie et qu'il va disparaître, je trouve que c'est moins important que quand ma grand-mère est morte et que ça m'a fait beaucoup de peine, et sauf que très peu de gens en ont parlé. C'est-à-dire que je suis pour l'homme plus que pour la nature. Voilà.
Mais je crois que vous êtes un vrai progressiste, vous.
Bah, si vous le dites d'un autre
côté...
Non,
il me semble. Hein.
Oui, oui.
D'ailleurs, vous êtes de gauche, vous le dites assez souvent.
Non, je ne le dis pas, on me dit que je le suis.
Vous, vous ne le dites jamais?
Non.
C'est drôle, je dois entendre des voix.
Non, mais je ne le dis jamais parce que je trouve que c'est petit d'être de gauche, il faut être plus que ça. D'être de gauche, c'est une définition qui vous enferme dans une définition où il y a trop de gens que je n'aime pas qui sont.
Ah oui, qui eux-mêmes disent qu'ils sont de gauche.
Voilà,
je me
suis
toujours demandé d'où venait cette propension des gens qui sont de gauche à afficher leurs opinions politiques. Les gens de droite ne disent jamais qu'ils sont de droite.
Ils se planquent.
Non, il y a des États qui sont très fiers d'être de droite, mais enfin, ouais, ils n'ont pas l'outrecuidance de la ramener sur le sujet.
Ouais.
Pourquoi les gens de gauche constamment nous disent qu'ils sont de gauche?
Ouais, ça se voit pas, peut-être pour ça. quand ils sont dans leur piscine et en train de bouffer comme ça du caviar, ils sont obligés de dire qu'ils sont de gauche, sinon on les croirait pas.
Ça, non, mais on a l'impression que ça n'engage à rien, à part le fait d'aller voter tous les 5 ans ou tous les 7 ans autrefois
pour un
candidat de gauche, ça n'engage à rien.
Ouais. Mais d'être de droite non plus, ça n'engage à rien, franchement.
Bah, justement, c'est peut-être pour ça que les gens de gauche... Non, je sais pas, j'ai pas d'explication là-dessus.
Là, j'ai l'impression qu'on est sur une discussion qui va se terminer dans rien.
Non, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes de gauche avec le personnel du théâtre du Rond-Point ?
Mais ça veut dire quoi être de gauche ? On s'entend très bien, il n'y a aucun problème. J'ai même fait une réunion avec... Vous savez que le personnel du Rond-Point et mon attaché de presse chérie, Hélène Ducharme, ne le démentira pas. Il y a quand même 70% de personnel féminin. Et d'ailleurs, je les ai réunis l'autre jour, toutes, et je leur ai dit, écoutez, je comprends vos pétitions, je comprends vos réclamations, je comprends tout, je vous assure, je vous le comprends. Il n'y a pas assez de harcèlement sexuel au Rond-Point, je le sais, mais je vais m'en occuper.
Je me dis que dans les années 60, être de gauche, c'était être dans l'opposition. Mais après, à partir de 81, être de gauche, c'est souvent être... C'est parfois, la moitié du temps, au moins, être du côté du pouvoir. Est-ce que c'est gênant ?
Écoutez, vraiment, moi je veux bien que vous me colliez cette étiquette et je l'assume. Oui. Je veux dire, moi je me suis jamais préoccupé de ça. Je suis sûr que dans les années 60 et dans les années 68, j'ai encore les cicatrices sur ma jambe droite d'un pavé qu'on m'a relancé dans la gueule, etc. Ou plutôt dans la jambe.
Vous étiez du côté des CRS, vous allez me dire.
Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit une phrase définitive. Attention, de près, le CRS est souvent attendrissant. Donc c'est... Non, mais en plus, les CRS, ils nous ont magnifiquement défendus contre ces hystériques catholiques de Civitas qui ont voulu nous tuer au rond-point.
C'est quand vous aviez monté Golgotha, la pièce de Rodrigo Garcia.
Ouais.
Vous avez eu quelques problèmes avec les catholiques intégristes. Vous avez même été attaqué physiquement. Hein.
Ah bah moi, ils m'ont renversé des caisses d'excréments de chiens sur moi en me tenant.
C'est pas vrai.
Ouais, bien sûr.
Ça vous a inquiété quand même?
Non. Franchement, j'ai trouvé ça tellement stupide. Je disais au type qui filmait de la télé, tout ça, les gens de la radio, je disais, merci d'être là, ça me prouve qu'on n'est pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de caméra, tout ça. Mais sinon, c'était une régression d'une stupidité. Je me souviens du curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, énorme, comme ça, une espèce de catcheur dans sa soutane, qui était devant les CRS, et on disait, vous savez, moi, je vais passer, je vais faire une nomine et patresse, et vous allez tous vous agenouiller. Alors, il disait, personne ne bougeait, les mecs restaient avec leurs boucliers. Alors, je leur ai dit, vous savez, je disais au mec, excusez, monsieur l'abbé, le problème de la magie, c'est qu'il faut, s'il faut travailler ses tours avant de les faire.
Tiens, à propos de magie, vous allez lancer un festival de magie, là.
Ouais. Il y a Étienne Saglio qui va bientôt faire un spectacle, alors ça, il ne faut pas le manquer, où il y aura une forêt, un géant, un animal, un loup, et tout d'un coup, on se retrouvera en deux minutes dans un appartement. C'est absolument sidérant. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, là, on est sorti de la magie avec le lapin dans le chapeau, etc., et on est vraiment basculé dans quelque chose qui vous... Oui, qui vous peut-être peut vous faire penser que tout ce qu'on nous a appris est faux.
C'est Orson Welles qui avait été lui magicien lui-même, qui adorait la magie, et qui disait au fond un magicien, c'est un comédien qui arrive à nous persuader qu'il est magicien.
Oui, oui, c'est ça exactement. Et vous savez que Orson Welles, il a été le plus grand magicien du monde, c'est quand il a fait croire quand même à New York en 1937-38 que les Martiens envahissaient à la radio. Avec votre arme favorite, que les Martiens envahissaient New York.
Oui, il avait fait une lecture de la Guerre des Mondes, mais vous savez que c'est une légende. En réalité, il n'y a jamais eu de panique, comme on l'a raconté. Il n'a pas fait paniquer la population américaine. D'ailleurs, l'émission avait été très peu écoutée. C'est après les journaux qui, à l'époque, maudissaient la radio, qui prenaient de plus en plus d'influence, qui ont raconté ça pour la noircir.
Frédéric Tallet, vous qui êtes un homme de radio que nous respectons tous, est-ce que de dire du mal de la radio, de dire du mal de la force de persuasion de la radio avec Orson Welles, vous trouvez ça bien?
Mais à l'époque, on disait du mal de la radio, comment? Ensuite, on a dit du mal de la télé.
Oui.
Vous voyez,
oui.
Bon, enfin, tout ça est derrière nous. Maintenant, on dit du mal d'Internet.
Oui.
C'est beaucoup plus moderne.
Oui.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Ribes. On arrive au studio de Boulogne.
Frédéric Taddeï en balade avec Jean-Michel Ribes sur Europe 1.
La balade de Frédéric Taddeï et Jean-Michel Ribes se poursuit à Boulogne, dans le sud-ouest de Paris, dans de mythiques studios de tournage.
Nous voilà au studio de Boulogne, de rue de Sillé, à Boulogne. Les studios de Boulogne, c'est là où ont été tournés la plupart des films d'Alain Delon. C'est là qu'il y avait Bourville, Jean Gabin, De Funès. On a tourné un certain nombre ici, dont La Grande Vadrouille, mais aussi certains gendarmes, Les Fantômas. C'est là qu'a été tournée La Boum, César et Rosalie, Charade de Stanley Donen, qui vient de nous quitter avec Audrey Hepburn et Cary Grant. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil avec Jean-Yann. C'était un de vos amis, Jean-Yann.
Oui, et Prévost qui était dedans aussi.
Daniel Prévost était dedans également. Moonraker, James Bond, Peur sur la ville avec Belmondo, Pédale douce, Le jour le plus long.
Oui, enfin, pour finir, ça s'est amélioré et ça a été jusque Palace. Oui.
Palace, ouais. Avec François Rollin, que nous venons de retrouver dans les studios. Ça s'appelle Canal Factory maintenant.
Ah, attendez, Frédéric, je suis venu là parce que vous m'avez dit de venir là. Hein. C'est pas, je n'y suis pas en permanence.
Vous n'y travaillez pas. Ben, aujourd'hui, maintenant, c'est Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna qui est enregistrée ici.
On peut s'éloigner.
Ne soyez pas bégueul.
Je
crois savoir que ce studio a été racheté par Christian Fechner à l'époque pour vous.
Absolument. C'est-à-dire qu'il avait fait une chose extraordinaire quand on avait donné les premiers textes. Au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, mais il ne nous a pas répondu. Et je lui ai dit, excuse-moi, Christian, mais dites-nous quelque chose, parce que nous, on doit faire des choses. Il m'a dit, non, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Mais j'ai dit, comment vous envisagez on ne va pas enlever des Japonais au crayon ou des Américains au Ritz. Comment on va faire ? Il me dit, mais non, je vais racheter les studios de Boulogne. Et je me suis dit, c'est génial, parce que c'est une manière de nous dire non qui est parfaite. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas arriver à acheter les studios de Boulogne. Et il l'a fait.
Il l'a fait.
Et c'est là, d'ailleurs, puisque François est là, c'est là, entre autres, où est né le professeur Rollin, vraiment. C'est
voilà.
Là,
il est né là. Et sur Canal+, puisqu'à l'époque, la première diffusion de Palace, c'était sur Canal+. Vous oui, faisiez partie des auteurs aussi, François Rollin.
Oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, ici, j'ai des souvenirs qui sont un peu douloureux, parce que trois des plus grandes plumes de Palace... nous ont quittés, enfin Topor et GB nous ont quittés, et puis Volinsky, ben, on nous l'a quitté. Et puis beaucoup des grands interprètes de Palace sont partis aussi, donc c'est vrai que j'ai
Philippe
une pensée
Corsan,
pour
ouais.
Philippe Corsan, pour Jacques François, pour Claude Pieplus, pour Jean Carmet, pour Jacqueline Maillan. Voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ce qui est triste, le reste ce n'est qu'un bon souvenir.
Qu'un bon souvenir, vraiment ?
Ah oui, oh là là.
Qu'il était bien Jean-Michel Ribes.
Oh, pour là là. Ouais. Au-delà
de gauche,
bien,
de gauche, vraiment.
Oh, mais merde, arrête pas de dire de gauche comme ça. C'est vraiment, c'est l'animateur de l'émission qui veut absolument montrer qu'il a des connaissances de gauche, qu'il n'est pas.
Je veux dire comment ça se passait d'ailleurs. On lui présentait des textes, il disait ça c'est de gauche, ça c'est pas de gauche. Voilà, il prenait pas.
Voilà, exactement. Non, mais moi, c'est même tous les gens que vient d'évoquer, François, c'était plus que des amis à nous tous, comme ça. Et c'est vrai que. Curieusement, Palace fait qu'on continue un peu à vivre avec eux. Moi, voilà, c'est des souvenirs quand même. Ils ne sont pas tout à fait disparus. Ils restent là et voilà.
Moi, j'ai aussi un peu d'émotion parce que j'ai grandi dans cette rue de Silly.
Oui, je sais, on a
enfance,
vu, il y a une rue
adolescent.
Qui porte votre nom,
mais
on a
vu. Oui, Silly, ça veut dire idiot en anglais. Et je passais devant les studios. La porte était grande ouverte à l'époque. Je voyais tout le temps Alain Delon parce qu'il tournait tous ces films-là.
C'est vrai.
Delon, j'ai l'impression.
Et moi, je me souviens d'un jour quand Alain Delon tournait ses films. C'était extraordinaire. Il y avait toute l'équipe qui était prête. Il y avait Lavanant qui tournait avec lui. Tout était prêt. Dominique Lavanant était à sa place. Les caméras étaient prêtes. Les figurants étaient en place. Il n'était pas là. Et tout d'un coup, il descendait de sa loge. On disait moteur. Il disait deux répliques. Et il ne disait jamais deuxième prix. Ça suffit. Delon, parce qu'il se parlait à lui-même.
Non, pas toujours, pas à l'époque.
Si, il disait Alain Delon ne fait pas deux prises.
Ce qu'il faut vous dire aussi comme souvenir ici, c'est que je me souviens quand on faisait Palace, quand Palace a commencé à être diffusé, il y avait des tas de gens qui disaient « Oh bah oui, mais c'est facile, c'est plein de pognon, vous avez des milliards et tout ça. » Et non, on n'avait pas des milliards, on avait bien les moyens de faire le truc. Donc Jean-Michel s'était bien débrouillé parce que nous, on ne s'est pas occupé de tout ça. Mais quand je reviens devant cet endroit, je me souviens, il suffisait de rentrer pour voir que tout ça, c'était du carton-pâte, des bouts de bois et tout ça.
C'était des très grands décors.
Oui, mais c'est la magie de l'image.
En tant que spectateur, on se disait, putain...
Oui, enfin, ce que François dit est juste, c'est comme toutes les choses qui sont produites par des milliardaires ne coûtent pas des milliards. Mais, c'était quand même assez étonnant, parce que ce qu'a fait un jour Fechner m'a sidéré. Tout le décor était fini. Il a fait quand même venir des charpentiers de marine parce qu'on ne pouvait plus construire en bois, etc. Ça, c'est vrai. Et tout d'un coup, il est passé là, il a dit « Mais non, ça ne suffit pas ». Il a fait ramener des palmiers et une fontaine qui tournait d'un mur. Il disait « C'est très beau dans la place une fois ». Ce qui nous a emmerdé pour le son pendant tout le tournage. Mais il voulait en remettre encore quand même.
Et au moment où ça a été diffusé, vous avez senti le succès tout de suite. Parce qu'après, c'est un programme dont on a beaucoup reparlé après.
Je vous rappelle, peut-être Jean-Michel vous l'a déjà dit, qu'il y avait un projet de faire une suite à Palace et que la télévision n'en a pas voulu. Non, c'était pas assez bien pour eux.
Pas exactement ça,
pas
François.
Tout à fait ça.
Non, ce qui était extraordinaire, c'est que il y avait la suite, tout était écrit. Et tout d'un coup, monsieur, comment il s'appelait, celui qu'on appelait Oiseau Tamine,
Claude Contamine.
Claude Contamine n'est plus directeur de Antenne 2. Donc tout d'un coup, Antenne 2 dit on ne peut pas se remettre dans la
parce
production.
Parce qu'après Canal, ça a été diffusé sur Antenne 2 à l'époque.
Ouais, donc ils étaient coproducteurs. Donc attendez, et le nouveau PDG n'est jamais arrivé. Fechner a gardé ça ouvert pendant je ne sais pas combien de temps sans personne, ça lui coûtait un fric fou. Et tout d'un coup, on a dit on détruit Palace. Et 8 jours après, le nouveau PDG dit « Allez, on repart trop tard ».
Et alors, il faut que vous expliquiez pourquoi vous l'appelez Monsieur Oiseau Tamine.
Ah oui, ça, c'était avec Chaval.
Voilà,
merveilleux,
c'est Chaval.
Chaval qui avait écrit ce merveilleux...
Les oiseaux sont des cons.
Les oiseaux sont des cons. Et donc, Claude Contamine lui remet le prix du meilleur dessin animé, parce qu'il m'avait fait un dessin animé à je ne sais plus quel festival. Et quand il lit mais les oiseaux sont des cons, dans sa bouche, c'était impossible.
Alors, il peut pas le dire.
Il peut pas le dire. Alors il dit, et pour Monsieur Chaval, le grand prix pour les oiseaux sont des oiseaux. Et Chaval lui répond, je remercie Monsieur Oiseau Tamine, etc.
Mais comme toutes les, je pense comme toutes les belles choses, Pallas avait un peu d'avance, en sorte que, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, non, les gens n'étaient pas si fans tout de suite.
Pas au ce moment-là.
Et c'est devenu culte petit à petit, et on s'est rendu compte petit à petit que c'était du solide.
Je le disais, c'est dans ces studios de Boulogne qu'a été tourné Charade, merveilleux film de Stanley Donen, qui vient de nous quitter à 94 ans avec Cary Grant et Audrey Hepburn.
Et Cary Grant avait loué un appartement dans la maison où j'étais rue du Bac, et il prenait son petit déjeuner dans la cour en robe de soie, et déjà il pensait que c'était chez lui. Et les gens le traversaient, ils disaient, c'est incroyable, il disait bonjour, il offrait du thé, etc.
Et ben on va écouter la merveilleuse musique d'Henri Mancini, le générique de Charade, film d'espionnage. C'était la musique du film Charade, composé par Henri Mancini et dirigé par Henri Mancini, le film de Stanley Donen. On se retrouve dans un instant avec François Rollin et Jean-Michel Ribes.
De deux, ils sont passés à trois. Frédéric Taddeï est toujours en balade avec Jean-Michel Ribes, mais avec aussi François Rollin qui les a rejoints.
Nous sommes toujours devant les studios de Boulogne, rue de Silly, à Boulogne-Billancourt, avec Jean-Michel Ribes et François Rollin. À l'époque, il y a une nuée de comédiens autour de vous deux. Dans Pallas, on est dans les années 80. Un certain nombre vont se faire connaître, comme Valérie Lemercier. Est-ce qu'il y avait de la compétition entre tous ? Est-ce que c'était à celui qui serait le plus drôle ?
Il n'y avait pas de, compétition parce que ce qu'il faut bien retenir de Pallas, c'est que le plus gros travail était fait par une équipe d'auteurs fabuleuse. Voilà. Et qui était une vraie gourmandise pour les acteurs. Et c'est pour ça que les acteurs venaient, c'est pas parce qu'il y avait du pognon ou parce qu'il fallait se faire connaître. C'était parce que, quel plaisir pour un acteur de jouer des textes qui sont bien écrits.
C'est-à-dire que les souvenirs que j'ai, moi, c'est quand même avec Pieplu, qui était l'homme le plus incroyable déjà dans Merci Bernard. On lui envoyait des textes, appelait plus, par exemple, on lui envoyait un texte. Alors voilà, vous êtes un docteur, le téléphone sonne et vous le mangez. Et lui, il envoyait une lettre, pas du tout pour étonner qu'il mange le téléphone, mais voulait savoir qui l'appelle.
c'est ça, un acteur.
Ouais, un acteur. Non. Donc on était porté aussi par cette gourmandise dont parle François, mais par des gens qui adhéraient absolument à toutes nos folies, qui étaient un peu interdites ailleurs. Enfin,
Valérie Lemercier s'est fait connaître dans Pallas. Vous vous souvenez d'elle quand elle est arrivée ?
Oui, je me souviens, ben, Valérie, elle était au début toute timide, hein, comme il se doit, et aussi gourmande de jouer ses textes, qui étaient rigolos, qui étaient un peu transgressifs, et souvent c'était Topor qui lui avait amené des trucs à la Topor.
Et un peu moi
et
aussi.
Elle, et, voilà, et elle aimait ça. Et donc c'est pour ça que tous les tournages se passaient dans une bonne... Bien que Jean-Michel ne soit pas un directeur tendre, je l'ai vu quelquefois, il y a quelques acteurs dont je me souviens qui étaient un tout petit peu secoués, mais dans l'ensemble, c'était quand même des journées de vacances.
Comment vous faites pour secouer un acteur, alors, Jean-Michel Rhyme ?
C'est une chose un peu compliquée, mais je secoue l'acteur quand tout d'un coup, la partition n'est plus entendue. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, alors, comme Rollin, François Rollin, qui écrivent leurs textes avec déjà la musique dans la tête, donc là, il n'y a rien à dire, c'est une chose tellement... ovniesque que personne ne peut le diriger sinon lui-même. Mais il y a d'autres acteurs, en effet, qui étaient un peu perturbés par ce qu'on leur demandait de faire. Et donc, il fallait re-régler. Quoi. Ils ne pouvaient pas jouer ça comme le canard à l'orange, ou etc. Donc, c'est vrai qu'on amenait un peu à la... Mais ils étaient plutôt rassurés et contents et plutôt, comment dirais-je... Oui, le fait de les amener dans un endroit où tout d'un coup, ils découvraient qu'ils arrivaient à faire ce qu'ils ne croyaient pas pouvoir faire, c'était pas mal.
Les séquences les plus folles dont je me souviens, c'était Jean-Michel dirigeant Jean Carmet dans les brèves de comptoir de Goriot. Et Carmet avait cette façon de faire, c'est-à-dire qu'il écoutait, mais il prenait le commentaire de Jean-Michel à une vitesse incroyable et il disait « Oui, bon, j'ai compris ». Et Jean-Michel n'avait pas fini sa phrase. Et en effet, il avait compris ce qu'on attendait de lui. Et celle qu'il faisait derrière, c'était exactement ça.
Je me souviens qu'après, le personnage du professeur Rollin, vous l'avez transposé dans les émissions de Thierry Ardisson. C'était le même personnage.
Oui. Oh, je l'ai promené, oui, dans je l'ai Ardimat, promené pendant longtemps. Oui, bah, voilà, c'est une partie de moi-même. Donc, je suis le papa du professeur et Jean-Michel en est la maman, puisque c'est avec lui que nous avons assuré la naissance.
C'est pour ça qu'on est heureux de se retrouver ici depuis longtemps, parce qu'on ne couche plus ensemble depuis un moment, mais de se retrouver ici, ça nous remet la libido en lumière.
Je sais que vous êtes réalisateur de cinéma également, Jean-Michel ouais. Rive. Je sais que c'était il y a 25 ans, vous avez fait un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Chacun pour toi.
Oui, moi aussi, c'est le film que je préfère.
Ouais,
que
fait, ouais. Moi aussi, ouais. Sur les championnats du monde de coiffure ouais. Avec deux types que je trouve moi géniaux. L'un était au début de sa carrière, c'était Albert Dupontel.
C'est son premier grand film.
Voilà. Et l'autre, c'était à l'automne de sa carrière, c'était Jean-Yann.
C'était étonnant parce que j'avais assez prévu le coup. Parce que c'est vrai que Dupontel était un dingue absolu, un rebelle de tout, cassé tout. Et je m'étais dit. Avec Jean-Yann, il avait une narration folle pour Jean-Yann, ils vont se neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé. Jean-Yann, selon son habitude sur les tournages, partait du tournage et allait faire, par exemple, en Tchécoslovaquie, il avait trouvé un pâtissier qui avait fait des trucs, il allait faire une affaire pour prendre le secret de la pâtisserie. Et
il
le
était très homme d'affaires.
Hein, oui, dans le monde, etc. Quant à Albert Dupontel, il se tapait toutes les assistantes qui étaient autour pendant qu'on le cherchait. On disait, il est à la chambre 19. Ah non, il est dans la 26 aujourd'hui, allez le chercher. Voilà.
Et donc, Palace sera de retour en septembre oui. au Théâtre de Paris, oui. Avec de nouveaux textes
Disons qu'il y a un fond de casserole qui est le même. C'est comme quand Charles Aznavour, ce qui est notre idole, refait un spectacle, il y a toujours la mama. Donc il y aura les grands classiques qu'il y a. Mais en effet, on a fait une adaptation avec Goriot. Je voulais que François nous rejoigne, mais il était trop occupé avec sa nouvelle affaire d'immobilier qui monte en ce moment à New York. Mais
les gens vont le croire.
Oui, mais oui, ce sera assez. Avec que des gens tout à fait neufs, il n'y aura pas de « Ah, s'ils étaient mieux avant, oh, c'est des gens neufs », comme était Palace au début.
Vous êtes lancé dans l'immobilier, François Rollin.
Non, il ne dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'à un moment, on s'est un peu embrouillé parce que moi, je pense que le Roquefort s'accompagne d'un verre de Sauternes. Et Jean-Michel, lui, défend que le Roquefort s'accompagne d'un verre de Banyuls. Le ton est monté, donc on ne s'est pas parlé pendant un temps. Et puis finalement, on est tombé d'accord que l'idéal pour le Roquefort, c'est un mélange à parts égales de Sauternes et de Banyuls.
Voilà, exactement.
Eh bien, nous allons gagner vos pénates. On va vers le théâtre du Rond-Point que vous dirigez maintenant depuis 2002, au moins.
Moi, je trouve ça bien parce que vous êtes un des rares types qui préparait aux émissions.
C'est vrai. Savez non, mais c'est parce que j'étais là en 2002 déjà.
C'est vrai. Bah oui, oui.
J'ai même connu du temps de Renaud Barrault.
Ah oui, bah oui, oui. Alors oui.
C'était bien avant vous.
Ah oui, moi j'étais pas né.
Je dirais pas que j'ai connu la patinoire qui était encore avant Renaud Barrault, mais presque. Merci François Rollin, ça m'a fait plaisir de vous voir.
Moi, ça m'a fait plaisir.
On écoute les infos. On se retrouve juste après.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Michel Ribes sur Europe 1.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec Fabienne Lemoyle. Bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. Dans le journal de la mi-journée, nous reviendrons bien sûr largement sur les violences sur les Champs-Élysées hier lors du 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Les Champs-Élysées défigurés avec, vous l'entendrez, des commerçants sous le choc en découvrant ce matin l'étendue des dégâts. Ce sont au moins 80 enseignes qui ont été touchées, dont une vingtaine de magasins pillés ou victimes de départs d'incendie. Nous rejoindrons sur place Romain Auquet. 200 personnes étaient toujours en garde à vue ce matin, dont 15 mineurs. Au moins 17 membres des forces de l'ordre ont été blessés hier. Nous verrons avec Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 si le dispositif était adapté pour faire face à cette violence, alors que 5000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur l'ensemble de la capitale et qu'ils ont dû faire face à 1500 casseurs ultra-violents. Emmanuel Macron a écourté son séjour à la montagne dans les Pyrénées pour rentrer à Paris hier soir. Le chef de l'État a dit qu'il voulait prendre des décisions fortes et complémentaires pour que ces violences n'adviennent plus. Le chef de l'État, qui est sous le feu des critiques de l'opposition depuis hier encore ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, était l'invité d'Europe 1. Et il a dit que le gouvernement ne faisait pas son travail à l'évidence, vous l'entendrez. Dans le reste de l'actualité, le journal des sports de Cyril de la Morinerie avec un match choc ce soir au Parc des Princes. PSG-OM que vous pourrez suivre en intégralité sur l'antenne lors d'une grande soirée entre 20h et 23h présentée par Lionel Rousseau. Et puis la météo, régime d'averse et de giboulée jusqu'à ce soir avec même de la neige sur les Alpes à partir de 800 mètres. Côté température, comptez 8 à 12 degrés au nord de la Seine jusqu'à 20 degrés dans le sud-est.
Merci Fabienne. Comme chaque dimanche, vous êtes avec Frédéric Taddeï. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Europe 1, en balade avec Jean-Michel Ribes, Frédéric Taddeï.
Nous sommes en balade avec Jean-Michel Ribes aujourd'hui. Le directeur du Théâtre du Rond-Point, qui est aussi cinéaste, auteur, metteur en scène de théâtre. Nous sommes dans les jardins des Champs-Élysées, au Rond-Point des Champs-Élysées. On approche du Théâtre du Rond-Point. C'est pour vous la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, Jean-Michel Ribes ?
Ça l'est devenu quand tout d'un coup, il y a quelques années, je suis passé devant ce théâtre qui était vide, qui allait peut-être devenir le showroom des couturiers de l'avenue Montaigne, et je me suis dit...
C'est vrai que ça a été un projet à un moment.
La mairie a failli pas résister, parce que ça leur aurait rapporté beaucoup d'argent. Mais et je me suis dit, c'est là, c'est un peu comme Claudel, tout d'un coup, devant Notre-Dame de Paris, qui voit Dieu. Et moi, je me suis dit, c'est là que les auteurs vivants doivent vivre et doivent être représentés. Et on a porté le projet, je l'ai apporté à Delanoë, qui allait se présenter, à Catherine Tasca.
De Bertrand Delanoë, à ce moment-là, future maire de Paris, Catherine Tasca, qui était la ministre de la Culture et de la Communication. Les Champs-Élysées, ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, parce que depuis 4 mois, c'est fréquenté régulièrement par les Gilets jaunes.
Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, les gens ne le voient pas à la radio, mais je viens de m'apercevoir que toutes les espèces de barrages pour barrer... Enfin, la police laisse ses véhicules, vous savez, qui s'ouvrent, et ça devient des choses pour barrer les avenues.
Pour barrer la route.
Oui, en grillage, et maintenant, ils les laissent lâche.
Il les réutilise tous les week-ends. Est-ce que ça vous a posé des problèmes, vous, au Théâtre du Rond-Point ?
Ça nous a posé des problèmes, oui, mais ça nous a surtout posé des problèmes financiers, puisque finalement, en 5 annulations de samedi, on a fait 5 spectacles par samedi annulé, ça nous a coûté presque 360 000 euros. Voilà. Donc, si cet argent avait été aux gens qui en ont besoin, j'aurais moins trouvé ça ridicule, mais là, vraiment, c'est dur.
Vous êtes contre les Gilets jaunes ?
Non, je ne suis pas contre les Gilets jaunes, parce que j'ai parlé même avec des Gilets jaunes l'autre jour, qui étaient en bas, c'était très touchant, c'était des gens très touchants. Et puis là, il y a une série de cons en Gilets jaunes qui nous ont agressés en disant « on veut des salles, on veut dire des trucs, etc. Et puis on va te faire perdre plus de fric si tu ne nous laisses pas rentrer ». Là, ceux-là, je les aime moins.
Pas loin d'ici, presque juste en face, il y a l'Élysée qui est là. Cette proximité avec le pouvoir...
C'était bien quand il y avait Hollande, on était en stéréo, je pouvais vérifier ce qui se passait à l'Élysée,
Vous étiez très ami avec François Hollande.
Je suis très ami avec François Hollande, qui est un type délicieux, formidable. J'étais pas politiquement fait partie du Parti socialiste, mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait étonnant. Et d'ailleurs, je me souviens quand les gens disaient « Ah, Hollande en a marre », on faisait des dîners, il dînait avec eux, et après, il disait « Je ne voterai plus que pour lui ».
Je me souviens que vous avez fêté les 10 ans du Théâtre du Rond-Point en juin 2012. Il y avait François Hollande au Théâtre du Rond-Point. Il y avait quasiment la moitié du gouvernement. Vous avez pris le Théâtre du Rond-Point en janvier 2002. Je me suis dit que si vous aviez attendu juin 2012 pour fêter les 10 ans, c'est que vous ne vouliez pas les fêter pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Bah, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à la fin, je vous signale que j'avais fait René Lhervé, Opéra Bouffe.
Contre Nicolas Sarkozy.
Oui, qui était une espèce de truc un peu drôle.
Assez virulent.
Oui, et je regrette qu'il ne soit pas venu d'ailleurs, parce que je pense que ça aurait été sympa qu'il vienne, mais il avait même interdit à tous les gens de son parti d'y assister. Bon, tant pis. D'autre manière, il n'y avait plus de place.
Donc vous avez attendu juin, comme ça, là, il y avait tout le gouvernement qui était là.
Non, mais c'est pas tout le gouvernement, c'est surtout Hollande. Il y avait le gouvernement qui a suivi, mais c'est surtout François, parce que je trouvais ça drôle. Il est venu, on a beaucoup ri. C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément ri. C'est quelqu'un, voilà.
Et alors avec Emmanuel Macron maintenant, qui est votre voisin,
bah, il est venu un peu quand il y avait Hollande. Depuis, il vient plus. Je sais pas, il va voir d'autres pièces, mais il va venir un jour, j'en suis sûr. Il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas vers les choses, les bonnes pièces aussi.
Et avec Jacques Chirac, ça se passait comment?
Avec Jacques Chirac, ça se passait pas, parce que je crois qu'il n'est pas venu. Il n'est jamais venu. C'était quand même... la fin de son règne. Si à un moment, il a voulu faire une truc électorale ici, et j'ai refusé parce que je voulais pas après qu'on ait le Parti Socialiste, le Parti Communiste pour faire l'égalité des temps de parole, donc je lui ai dit non.
Il y avait eu un débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2003, le premier, au Théâtre du Rond-Point.
Le premier, absolument, le premier face-à-face s'est fait là, c'était assez étonnant. Parce que quand Sarkozy se déplaçait, c'était incroyable. Quoi. Il y avait...
À l'époque, il était ministre de l'Intérieur, je crois.
Oui, mais il y avait les chiens des mineurs, les renifleurs de bombes, des mecs sur le toit avec des fusils d'assaut. Enfin, je veux dire, on avait l'impression que c'était, je ne sais pas, le futur Donald Trump qui arrivait. C'était incroyable. Il avait une espèce de parano de la protection extraordinaire. Et je me souviens même un jour, on avait fait aussi un débat. Avec De Villepin qui était ministre de l'Intérieur. Je me suis recommencé. De Villepin, il a cogné à la porte. Il a traversé les jardins, il était tout seul. Il m'a dit, c'est là? Oui, je lui ai dit, c'est là, entré, mais il n'y avait ni chien, ni rien. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que quand je suis là à côté de vous, ça me rappelle ce moment où je me suis dit, mais bien sûr, ce théâtre, il ne faut pas qu'il devienne autre chose que ce qu'il est. Et voilà, il y a eu cette idée qui a séduit et Bertrand Delanoë et Catherine Tasca. De donner un théâtre aux auteurs vivants.
Son architecture tout en rondeur, comme celle du théâtre Marigny, ça vient du fait que c'était un panorama à l'origine.
Hein. Exactement.
C'était au 19e siècle, dans toutes les villes d'Europe, on avait comme ça des panoramas où on venait et il y avait des peintures à 360 degrés, par c'est exemple ça. De la bataille de Waterloo, on se mettait
au
milieu.
Oui, ou des pyramides, etc. Voilà. Tous les gens qui ne pouvaient pas voyager, il n'y avait pas de photos, donc ils venaient voir. Tout ce qui était un peu
déjà
exotique.
Immersif. Ouais, et le même panorama donc, faisait le tour d'Europe. Il était à Paris, le lendemain, il était semaine après à Londres, puis à Moscou, à Berlin.
C'était une manière, c'est comme les films aujourd'hui qui tournent, ben c'était ça. Et puis après, c'est devenu un théâtre, un cirque équestre, et puis une patinoire. Et c'est une patinoire qui était quand même sous le Second Empire. Et qui a duré jusqu'en 1981, date à laquelle les Renault-Barros sont arrivés.
C'était la plus grande patinoire du monde quand elle a été inaugurée. Il paraît qu'il y a toujours le frigo au sous-sol pour fabriquer la glace.
Vous l'avez... Ah non, ça, je ne l'ai pas vu.
Non, vous l'avez
ou
pas
alors,
vu
nous, peut-être, ou alors nous, on y met nos repas, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Bah, on va entrer dans le Théâtre du Rond-Point avec Jean-Michel Ribes. On s'y retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Jean-Michel Ribes sur Europe 1.
Jean-Michel Ribes, en plus d'être acteur, est aussi directeur d'un théâtre du 8e arrondissement. Et c'est justement là qu'on le rejoint avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes dans le Théâtre du Rond-Point, 2 avenue Franklin Roosevelt. 2 bis avenue Franklin Roosevelt, me corrige Jean-Michel Ribes, qui dirige cet endroit depuis 2002 maintenant. Nous sommes au restaurant, au bar-restaurant.
C'est comme Bouteflika, finalement.
Et vous entendez Tony Marshall qui compare Jean-Michel Ribes à Bouteflika. Tony Marshall, donc la réalisatrice de Vénus Beauté Institute, de France Boutique, de Pentimento. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? C'est Merci Bernard, hein, tous les deux.
On a fait Merci Bernard. Oui, on a fait. On a commencé par. J'ai joué dans une pièce que Jean-Michel avait écrite qui s'appelait Les Fraises Musclées.
Ah, c'est la première pièce, non? Quasiment.
Avec sa maman d'ailleurs.
Avec Michel Brel. Absolument. et on a fait une tournée où on était dans une petite camionnette et où on était dans une petite camionnette, je peux dire, extrêmement rigolo. Et c'est là qu'on a appris la mort tragique de Claude François, je m'en souviens. Et on était sous le choc et on s'est arrêté pour faire pipi sur le bas-côté. Donc ça date quand même d'un certain temps.
Oui,
parce qu'à chaque fois qu'on entendait des chansons de Claude François, on faisait pipi. Donc c'est voilà, c'est des positions. Voilà.
Et alors, merci Bernard. Autre programme culte, parce qu'on a beaucoup parlé de Palace, mais c'est vrai que merci Bernard, c'était encore avant.
Ouais.
C'était
oui, sur France 3 à l'époque. Oui, la Tony avait des interventions régulières, et oui, elle faisait les conseils de Tantaline, elle faisait les nouvelles, elle faisait, enfin, c'était vraiment, elle était formidable. Et puis après, on a fait elle a joué une pièce qu'elle a rejouée ici après, gentiment, qui s'appelait Bataille, que j'avais écrite avec Roland Topor. Il y avait Bacri et Corson au début, puis après, il y a eu
Arditi et Berléand.
Et je veux dire que je trouve qu'elle est une réalisatrice de grand talent, mais moi qui adore les comédiens et les comédiennes, je veux dire que je n'ai rarement eu une comédienne qui a autant de justesse, de drôlerie, de finesse que Tony. Mais c'est
pourquoi
vrai.
Je ne regrette pas d'être venue.
Mais je regrette qu'elle joue plus. Je regrette.
Pourquoi vous jouez plus d'ailleurs?
Ben, quand Jean-Michel m'appelle, je joue de temps en temps, mais c'est vrai que écrire, produire, réaliser, ça prend beaucoup de temps. Et puis que d'une certaine façon, on ne me propose pas non plus 250 trucs formidables. Voilà.
Non, mais on ne t'en propose pas parce qu'on se dit que tu ne vas pas le faire ou que tu n'as pas le temps.
Ben, voilà, mais pour reparler de Merci Bernard, qui a quand même été un moment. C'était un moment d'une telle indépendance, d'une telle insolence, joyeuse, créatrice de mixité, parce qu'on était garçons et filles à être, voilà, que j'en ai un souvenir qui me restera pour toute ma vie, vraiment.
Ouais, moi aussi, il y avait un moment de liberté, c'est une petite république libertaire, on faisait ce qu'on voulait. Et je veux dire qu'il n'y avait pas de regard parce que, il faut bien le dire, ça a eu un succès assez considérable tout de suite.
C'est miraculeux qu'on ait tenu 3 ans. On ne peut même pas imaginer qu'on pourrait refaire quelque chose de cet ordre-là, même à 20% de ce qu'on a fait, et que ça ait duré 3 ans. Tous les ans, on se disait, effectivement, ils vont nous arrêter. Et ils ne nous arrêtaient pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi.
Le succès, peut-être, hein, ça comptait.
Mais on rencontre. Alors, ce qui est très. Moi, j'ai un certain âge maintenant, mais je rencontre de temps en temps des gens de 35, 40 ans qui ont dû voir ça quand ils avaient 7, 8 ans. Et que ça a profondément marqué comme un truc.
Ou on peut le voir peut-être sur Internet aujourd'hui,
oui.
Non ?
Oui, moi je me souviens, j'étais à New York il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui m'ont arrêté en arrière, on est là, mais c'est vous qui nous avez élevés, c'est la seule chose qu'on regrette de ne pas être enfant, c'est merci Bernard. Et c'est aussi le truc que les parents interdisaient de regarder aux enfants, donc c'était ce qu'ils avaient le plus envie de voir.
Et évidemment. C'était qui Bernard d'ailleurs ?
Alors, vous savez, l'histoire de Bernard, le titre de Bernard qu'on a beaucoup. La véritable histoire, c'était que. À la fin des années, c'était à la fin des années 70, il y avait la Coupe du Monde de football en Argentine. Et on l'a regardé avec Patrick Chenet, qui s'était cassé la jambe, j'étais à côté de lui. Et la France avait été éliminée, il n'y avait plus du tout du but, de rien. Et il y avait donc Michel Drucker qui faisait un direct avec Bernard Père et on comptait le nombre de fois, il disait, eh bien, merci Bernard, et tout ça. Et quand on m'a dit... Mais c'est quoi la télévision pour vous ? Je dis, moi, c'est Merci Bernard. Voilà la vérité du titre.
Je ne le savais pas.
Mais non plus, je
le savais. Voilà.
Eh oui, c'est drôle. Et qui aurait pu dire qu'à ce moment-là, ça vous aurait mené dans cet endroit qui a révolutionné le théâtre ?
C'est la continuité. Hein. Finalement, on était un peu toujours des gens un peu le pas de côté, un peu. On était. Pas toujours, on amusait, mais on n'est toujours pas bien reçu dans les cercles des bien-pensants et tout ça. Et finalement, on a pris un peu d'espace.
C'est vrai et que c'est ce lieu, moi je me souviens, depuis le début des années 2000, quand vous en devenez le directeur, c'est devenu un vrai lieu vivant. C'est-à-dire qu'il y a les restaurants, il y a le bar. On a l'impression que tout le théâtre et une partie du cinéma, d'ailleurs, s'est donné rendez-vous ici.
Oui.
Et vient voir les spectacles, vient dîner, vient chercher des acteurs.
Et vient y participer un peu, souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu comme pour Palace, pour venir prendre une douche. C'est-à-dire, vous savez, j'ai fait beaucoup de conneries, mais je suis allé jouer au théâtre du Rond-Point, ce bateau pirate, donc vous voyez, je ne suis pas totalement.
Et vous y venez en cliente aussi
pour dîner. Oui, moi j'y viens souvent. soit jouer ce qui m'est arrivé il y a quoi ? C'était quoi, il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça ? Soit en cliente, soit... Enfin, c'est un an. C'est familier et c'est effectivement...
Et presque familial, parce que c'est vrai que... C'est, ouais. J'imagine que quand on est comédien, réalisateur, metteur en scène, on connaît tout le monde à peu près.
Oui,
et
en tout cas.
Et même les serveurs
oui,
sont dans de futurs comédiens.
Souvent, les serveurs sont
surtout
les comédiens.
Surtout aux Champs-Élysées, oui. C'est un endroit qui ressemble... Vous voyez, comment dire, c'est un peu atypique aux Champs-Élysées.
D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit de te la nommer. Il m'a dit, je t'en supplie, est-ce que tu peux rendre les Champs-Élysées à tout le monde ? Et c'est ce qu'on fait. Il y a quand même 30%.
Les Gilets jaunes, depuis, ont pris le relais.
Ouais, mais en dehors des Gilets jaunes, il y a quand même 30% de public qui est de province, qui est de banlieue. C'est pas mal.
Il y a des concerts aussi. Il va y avoir dans pas longtemps, au mois d'avril, Lewis Furet, qui va venir chanter du Brahms.
Ouais. Bah, Lewis Furet, oui, qui a été un compagnon formidable, qui a créé avec moi et qui avait fait la musique de Jackie Paradis au théâtre de...
Voilà, qui est aussi le mari de Carole Laure. Et c'est Carole Laure qui fera les lumières de son spectacle. Je vous propose d'écouter la chanson qu'il a fait connaître, enfin, l'album qu'il a fait connaître ici, en France. La chanson, c'est Hustler's Tango. Il fut un temps où on entendait ça partout. You say you want a rap, rap, baby. And well, you know, you've got to pay. The match is fixed, set up already. You're gonna wrestle with an angel. Did you wanna make a deal? Oh, come on, my friend. You wanna make a deal? Oh, my brother, my lover. Wanna work with me? C'était Hustler's Tango, chanté par Lewis Furet, c'était en 1975. Va-t-il la chanter sur la scène du Théâtre du Rond-Point, mystère. Il est annoncé qu'il va adapter des leaders de Brahms, une toute autre histoire. On se retrouve dans un instant avec Tony Marshall et Jean-Michel Avey.
De 11h à midi et demi, comme chaque dimanche, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et un invité. Et aujourd'hui, ce n'est personne d'autre que Jean-Michel Ribes qu'on retrouve à ses côtés.
Nous sommes au Théâtre du Rond-Point avec son directeur Jean-Michel Ribes et avec Tony Marshall. C'est ici, le 15 avril, aura lieu la cérémonie des Topors. Une remise de prix, les prix de l'inattendu que vous avez créé l'année dernière. C'était la première édition en avril dernier. Et là, ça a lieu de nouveau. Alors, de quoi s'agit-il ?
Eh bien,
ce sont les anti-Molières ?
Non, c'est un prix qui est un prix d'inattendu qui est réservé aux artistes éloigné des chapelles du bon goût et des morales définitives. Et c'est vrai
ceux qui n'ont jamais de prix.
Ouais, oui, non, mais ils n'ont jamais de prix parce que c'est toujours la même chose. On ne les connaît pas. Et le travail qu'on fait ici, ce n'est pas d'aller vers ce qu'aiment les gens, mais ce qu'ils n'aiment pas encore. Et ça fait évidemment des grandes surprises. Et c'est un peu pour ça qu'on a eu ici un public un peu fidélisé, c'est qu'il y a toujours une surprise, parfois bonne, parfois mauvaise, une surprise. Et c'est vrai que les Top Ports, eh ben, on donne des prix à des gens formidablement doués et qui sont un peu mauvaises herbes de la culture plutôt que l'aïeul de l'institution. C'est vrai, mais plus parfumé quand même. Et c'est vrai que c'est très réjouissant et que ça a eu l'année dernière. On n'en revenait pas. C'est une écoute insensée, insensée. Et comme quoi les gens, ce qu'on oublie et ce qu'oublie peut-être les directrices de chaîne et je sais pas, Madame Ernotte et tout ça, c'est que les gens sont intelligents et curieux.
Les prix, c'est toujours un problème. Vous en avez reçu pas mal, vous aussi, Tony Marshall. Une avalanche, même, au moment de Vénus Beauté Institut. Est-ce qu'on y croit quand on reçoit un prix, quand on vous dit c'est le meilleur film de l'année, vous êtes la meilleure réalisatrice?
Non. Enfin, il y a une distance, je pense. On se dit, j'ai eu du bol. Enfin, voilà. Mais ça fait quand même extrêmement plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais tous ces gens m'ont dit... Je vous aime, on a aimé ça, donc ça fait extrêmement plaisir. Mais il y a une distance raisonnable à garder avec le fait qu'on ait le meilleur film.
Pareil pour les Molières.
Oui, ou les Molières, ou les Grands Prix de l'Académie française, ou ces autres très ronflants comme ça. Oui, c'est un peu des médailles en chocolat, mais c'est pas désagréable d'avoir un peu de sucre de temps en temps.
Et j'imagine que c'est pas désagréable non plus d'avoir un prix un peu en contrebande du type les
ah oui.
Topors.
Oui, oui.
Parce que quand on sait qu'on n'aura jamais de prix, oui. On se dit mais j'ai peut-être une chance.
Oui, surtout que nous on a un jury tout à fait particulier puisque on sait que tous les prix sont injustes et celui-là le sera encore plus puisque nous on dit vous aimez un truc, d'accord, ça marche. Vous avez un truc formidable qui sort dans le métro, on y va. Mais on a le droit même de nommer son frère. Le népotisme est absolument accepté.
Ce qui est pas reconnu ailleurs.
Non, c'est absolument. Vrai. Et c'est dommage parce qu'il y a des frères formidables.
Formidables.
Il nous reste 3 minutes, Jean-Michel Ribes, vous aviez une déclaration à faire. Profitez-en, vous êtes sur Europe 1 et il y a beaucoup d'auditeurs.
Oui, la déclaration est le mot juste, parce que c'est une déclaration d'amour à Tony Marshall, que je suis heureux de voir là, et j'espère qu'elle va venir plus souvent, non pas en tant que spectatrice, mais de temps en temps venir remonter sur scène, parce que c'est une actrice que j'adore.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Tony Marshall, qui vous empêche de monter sur scène?
Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, d'abord, Jean-Michel ne m'a pas proposé la directe. Il va peut-être y repenser, mais il ne m'a pas proposé depuis un petit moment.
Récemment, je me souviens d'avoir vu un film porno de vous.
Vous avez... Récemment?
Bon,
non.
Il y a quelques années.
Oui, il y a quelques années.
Un certain nombre de femmes réalisatrices ont réalisé chacune des pornos.
Depuis, j'ai fait un film.
Vous en avez fait, hein.
Un film, plutôt, on va dire, plutôt féministe et habillé. Qui s'appelait Numéro 1 avec Emmanuel De Vos. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui m'empêche? Eh bien, je travaille sur, dans la lignée de se dire que on adore travailler avec les garçons et les hommes, mais on est un peu aussi de temps en temps intéressé à prendre un peu plus de territoire. Une série B qui serait un film Rape and Revenge avec Rossi Di Palma, Béatrice Dalle et Judith Godrèche. Voilà.
Pas mal, pas mal.
Donc voilà, je pense
que ça. Et comment va Micheline Prelle?
Micheline Prelle a 96 ans et elle descend tous les jours au restaurant manger, boire. Et elle dit oh non, j'ai plus faim. Et puis elle dit mais qu'est-ce que vous avez comme dessert? On a un petit baba au rhum. Oh bon, voilà. Et pour l'instant, ma foi, comment dire, tout va bien.
Tout va bien. Comment vous voyez vieillir, Jean-Michel Ribes?
Alors, je vais dire une chose très étonnante. C'est une phrase définitive, c'est que l'enfer, c'est de vieillir quand on est toujours jeune. C'est horrible, je vieillis sûrement et les gens me le disent, mais je ne le ressens pas. J'ai toujours l'impression d'avoir 14 ans et demi, ça va s'arrêter, je vais bientôt avoir 17 ans un jour ou l'autre. Mais là, je suis absolument pas concerné par cette histoire.
Et vous aussi, vous avez arrêté d'être acteur après tout? Vous auriez pu continuer?
Oui, mais moi j'étais acteur parce que... Au début,
personne
dans ma compagnie...
Personne ne voulait jouer vos pièces.
Non, c'est pas que personne ne voulait jouer mes pièces, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour engager des acteurs beaucoup au début. Donc moi, je jouais gratuitement, mais j'ai des souvenirs de jeux avec notamment Philippe Corsan qui me reste encore jusqu'au fond de la gorge seulement
rié,
que c'était un immense comédien. Et puis, je sais pas, on a peut-être joué un jour avec Tony aussi. Enfin, voilà. Oui, mais après, c'est vrai que, je sais pas ce qu'elle en pense, moi, c'est vrai que là, d'écrire et de mettre en scène, et puis c'est beaucoup. De jouer en même temps, c'est beaucoup quand même là.
Moi, je ne jouerai jamais dans un de mes films.
Diriger un grand théâtre.
Oui, on est 80 personnes, l'air de rien.
Vous y passez combien d'heures par jour?
Bah, j'y passe beaucoup de temps, pas du tout d'ailleurs pour tirer la charrue, parce que j'aime bien être avec les gens qui sont là. On a une équipe d'amis, je dirais, absolument conservée et formidable, et je me sens bien, mais il faut y être quand même.
Bah, je vous remercie de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Merci Tony Marshall de nous avoir rejoints. Je remercie François Rollin, je remercie La Coupole de nous avoir accueillis.
Ah, vous avez été à La Coupole ? Oh, j'y suis pas retournée depuis qu'ils ont fait les travaux. Ça a dû changer considérablement.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
C'est assez terrible, maintenant c'est mieux.
C'est assez réussi. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure.
Bon dimanche Frédéric. En effet, à la semaine prochaine, 11h. En attendant, on peut réécouter toutes les balades sur europe1.fr. Dans quelques minutes, vous retrouvez Fabienne Lemoyle avec votre journal de la mi-journée. Et je vous rappelle qu'à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et l'économiste Alain Minc pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors avec tout ça, on vous souhaite un très bon week-end avec Europe 1. Il est midi 27.